Et dans notre club des Têtes au Carré, cet après-midi, des dinosaures à plumes, des aventuriers de l'Antarctique et des bactéries destinées à produire de la lumière. Je vous présente mes invités dans un instant. Et puis, à la une de la science, des analyses génétiques qui nous renseignent sur l'apparition des premières épidémies de peste, Axel Villard.
Oui, Mathieu, une étude vient de montrer qu'elle aurait infecté déjà des hommes à l'âge de bronze il y a près de 5000 ans. C'est une première et nous recevons une spécialiste de la peste pour en parler dans un instant.
Stéphanie Texier est aux commandes de l'émission qui a été préparée par Emmanuel Fournier avec Antoine Bonvoisin.
La tête au carré, le club, avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Et beaucoup de monde dans ce studio aujourd'hui, Antarctique, bioluminescence et dinosaures à plumes, avec Sandra Ray, Marie-Laure Le Louarne, Arnaud Salomé, Stéphanie et Jérémy Jiquel. Bonjour à tous les cinq.
Bonjour.
Bienvenue Sandra Ray, vous avez inventé un système d'éclairage qui fonctionne sans utiliser l'électricité et qui n'émet pas de pollution lumineuse et qui veut limiter les émissions de gaz à effet de serre. Quel est le secret de cette invention?
Le secret, c'est d'utiliser des organismes vivants, donc des bactéries qui sont capables, grâce à un gène qu'ils portent, de produire cette lumière naturelle via une réaction chimique.
Oui, ça marche déjà.
Ça commence à marcher. On a un premier produit pour la fin de l'année, avec encore un an de recherche devant nous pour sortir un produit plus industriel.
Il y a de belles perspectives, en tout cas, autour de cette invention. Vous allez nous expliquer comment vous est venue d'abord cette idée, vous qui n'êtes pas scientifique à la base. Stéphanie et Jérémy Jiquel, vous avez réalisé un exploit inédit en traversant l'Antarctique à ski via le pôle sud sur 2045 km. Tout cela en moins de 80 jours. C'était un hommage à Jules Verne ou une obligation beaucoup plus pragmatique?
C'était une obligation plus pragmatique. En réalité, durant l'hiver, il n'y a plus d'avions en Antarctique. Donc, il fallait à tout prix terminer la traversée avant le 28 janvier.
Oui.
Et on a réussi.
Et vous avez eu chaud, hein, Jérémy, je crois. Hein.
On a eu chaud, il y en a eu très froid aussi.
Oui, c'est vrai. C'était très contrasté.
Exactement, on a eu chaud parce qu'effectivement, on a pu terminer cette traversée juste l'avant-dernier jour, en fait, qui était prévu avant notre départ d'Antarctique. Et puis, on a eu très froid parce que la température est descendue jusqu'à moins 50 degrés et même probablement un peu au-delà.
Mais vous étiez bien couvert, heureusement, et ce qui vous a permis de publier un beau livre de votre traversée aux éditions Villot. On en parle avec vous dans quelques minutes. Marie-Laure Le Louarne et Arnaud Salomé. Est-ce que beaucoup de dinosaures avaient des plumes? Marie-Laure Le Louarne.
Eh bien, beaucoup plus qu'on ne l'aurait imaginé. Une bonne partie des dinosaures théropodes.
Oui.
Toute cette famille dont on connaît quelques spécimens du genre Tyrannosaurus rex, bien connus. Alors l'imaginer à plumes, ça devient tout de suite beaucoup plus amusant.
C'est ça, Arnaud Salomé. Et on connaît mal d'ailleurs ces dinosaures à plumes au fond. Hein.
Oui, tout à fait. Mais c'est vrai qu'on en retient des images de dinosaures, les grosses bêtes monstrueuses, les stars de cinéma. Mais finalement, on en est vraiment très loin.
Ouais. Mais ils se sont côtoyés quand même. Hein. On le verra.
Tout à fait, oui. C'est une longue histoire depuis quasiment le début des dinosaures. Et c'est passionnant de pouvoir suivre ça. Oui.
Et vous publiez sur les traces des dinosaures à plumes chez Belin Jeunesse. On se retrouve dans un instant. Et à la une de la science aujourd'hui, des origines de la peste plus anciennes que prévues.
Bien qu'ils ne soient pas tous des imbéciles, les chercheurs scientifiques ont beaucoup de mal à isoler le virus de la peste.
Je ne suis pourtant pas un imbécile.
Pourquoi est-ce si difficile? Eh bien, pour le savoir, voyons ce qui se passe à l'intérieur d'une goutte de sang d'un employé aux écritures de Marne-la-Coquette dans le 93, atteint de la peste bubonique. Sur cette image, nous voyons très nettement les globules rouges et le virus de la peste.
Eh bien oui, vous avez compris. S'il est si difficile d'isoler le virus de la peste, c'est que le virus de la peste ne supporte pas la solitude.
Je ne supporte pas la solitude.
Étonnant, non ?
Voilà la minute nécessaire de Monsieur Cyclopède avec Pierre Desproges, mais nous allons parler d'une étude beaucoup plus sérieuse publiée dans la revue Cell qui montre que la peste, cette maladie due à la bactérie Yersinia pestis, existait depuis bien plus longtemps que ce que l'on croyait jusqu'alors. Avant cette publication, les premiers signes connus de la peste dataient de l'an 600, mais cela fera en réalité 5000 ans qu'elle est présente dans les populations humaines. Bonjour Elisabeth Carniel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes chef de l'unité de recherche Yersinia à l'Institut Pasteur de Paris. Qu'est-ce que les chercheurs de cette étude ont d'abord chercher à savoir exactement autour de la peste?
Eh bien, comme vous le disiez vous-même, on savait que la peste avait causé une centaine de millions de morts au moins à l'âge de Justinien au VIe siècle et qu'il y avait eu deux autres pandémies ensuite au Moyen-Âge avec un tiers de la population qui a été détruite en deux ans, qui a continué, et une troisième ensuite. Mais avant l'ère chrétienne, on n'avait aucune idée, en fait, si vraiment la peste était là et ce qu'elle avait pu faire et sur quelle étendue elle pouvait avoir sévi.
Vous dites la première épidémie, 100 millions de morts, c'est ça ?
On estime, mais vous savez, à l'époque, c'était 6e siècle, estimations sont très... En tout cas, elle a détruit une bonne partie de la population de cette région.
En combien de temps, à peu près ? Est-ce qu'on a une idée ?
La première pandémie s'est étendue environ sur 2 siècles.
Axel ?
Comment fait-on pour traquer des traces anciennes de peste ?
Donc, une façon de faire, c'est ce qu'ont fait les chercheurs de cette étude, ça a été d'exhumer des squelettes de différentes parties d'Eurasie, de la Pologne jusqu'en Russie, et d'en sortir les dents. Or, les dents sont un univers superbe parce qu'il y a une émaille qui protège beaucoup la pulpe dentaire de la dégradation due au temps. Et donc, ce que vous avez dans la pulpe dentaire, quand vous mourrez, indique ce que vous aviez au moment où vous êtes mort dans le sang.
Et ces squelettes avaient la peste. Enfin, en tout cas, les chercheurs se sont dirigés vers des squelettes dont on savait qu'ils étaient porteurs de cette maladie auparavant.
Non, pas forcément. Ils en ont étudié beaucoup. Et parmi ce grand nombre de l'âge de bronze, ils en ont trouvé un certain nombre qui portaient des traces absolument sans aucune ambiguïté du bacille de la peste qu'on appelle Yersinia pestis. Donc, jusqu'à 2900 ans avant notre ère, ils ont trouvé des squelettes qui étaient morts, les hommes étaient morts de la peste.
Ce qui fait donc reculer l'âge de l'apparition, en tout cas de l'épidémie de peste, et qui donne maintenant une origine à 5000 ans.
Alors ça, c'est pour l'origine du bacille, ce qui est complètement différent en fait. Parce qu'un bacille peut avoir des millions d'années, et en fait, on a une trace 5000 ans avant, mais la plupart des bactéries pathogènes sont vieilles de centaines de milliers ou de millions d'années. Et le bacille de la peste, on savait, par des études que nous avions faites, qu'il avait entre 2000 et 20 000 ans. Ce qui était extrêmement jeune déjà pour une bactérie.
Oui.
Mais là, avec cette... ensuite, on avait réduit ça à 3 000 ans. Mais avec cette étude plus poussée, on sait que le bacille est apparu il y a 5000 ans, ce qui en fait la bactérie pathogène la plus jeune au monde.
Ah, c'est une jeune bactérie à 5000 ans.
Très, très jeune. C'est extrêmement jeune. C'est avant les dinosaures.
Après
les dinosaures.
Est-ce que cette vieille peste était aussi virulente que celle qu'on connaît aujourd'hui ?
A priori, non. Pour la bonne raison, c'est qu'on connaît l'ancêtre du bacille de la peste, qui s'appelle Yersinia pseudotuberculosis. Ça n'a rien à voir avec tuberculose, c'est autre chose. Et cette bactérie a donné naissance à Pestis. Et c'était une bactérie qui causait une gastro-entérite, comme on en a tous. Et c'est une bactérie qui existe encore de nos jours. Vous avez probablement été infecté par cette bactérie.
Ah tiens.
Voilà, qui existe.
Donc on a eu la peste sans le savoir, on pourrait
c'était
le dire comme ça.
L'ancêtre de la peste.
L'ancêtre,
et donc,
ouais.
Vous n'en êtes pas mort, nous n'en sommes pas morts, parce qu'elle était beaucoup moins pathogène. Donc au départ, elle était peu pathogène, elle a acquis de la virulence au fur et à mesure.
Et comment, justement, est-ce que cette bactérie est devenue plus pathogène au fil du temps ?
Alors, on n'a pas toutes les clés, clairement. On sait qu'il y a quelques modifications génétiques qui se sont produites. Et à notre grande surprise, on pensait, en comparant les génomes de l'ancêtre et du bacille de la peste, qu'on allait identifier et connaître ce qui faisait la différence. Et en fait, ce qu'on trouve, c'est que le bacille de la peste a perdu beaucoup de choses et a acquis peu de choses.
Et c'est ça qui donne la virulence
Non, parce que le peu qu'elle a acquis ne suffit pas à expliquer son extrême pathogénicité.
Ah, donc on n'a pas la réponse.
On n'a toujours pas la réponse.
Est-ce qu'on est capable de savoir si à cette époque, la peste a eu un impact sur les populations ?
Très certainement. Elle était déjà très étendue 2900 ans avant Jésus-Christ, puisqu'on en trouve, comme je vous disais, de la Pologne à la Russie, en passant par la Lituanie, l'Arménie. Donc elle avait envahi un grand territoire. Si elle était moins virulente, elle a eu moins d'impact au départ. Mais dire quel est l'impact qu'elle a pu avoir, on l'ignore pour l'instant.
On peut localiser son origine géographique très précisément ou pas ?
Alors, précisément, c'est un grand mot. On avait déjà pu montrer qu'a priori, c'est en Asie centrale. Et l'étude qui vient de paraître dans celle confirme, vu le territoire eurasiatique, que c'est effectivement dans cette région-là qu'elle est apparue.
On peut peut-être faire un point sur la peste aujourd'hui. Elle est très virulente. Est-ce qu'on la trouve encore beaucoup dans le monde ?
Alors, souvent, on croit et on me dit comment la peste ? Mais c'est une maladie qui n'existe plus.
Oui.
Ce qui est complètement faux, puisqu'elle n'a jamais disparu. Elle touche encore tout le sud de l'Afrique avec Madagascar où il y a des centaines de cas par année, chaque an. Et elle existe aussi en Amérique et en Asie.
Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'un jour on ait des épidémies de très grande envergure, comme celles qu'on a connues au Moyen-Âge par exemple ?
Très grande, je dirais non, pour plusieurs raisons. D'abord, on ne vit plus avec des puces sur nous, puisque la peste est transmise par les puces. Deuxièmement, on a maintenant des traitements, qui sont les antibiotiques, et on sait comment elle est transmise, ça n'est plus la punition divine, on sait que c'est dû à une bactérie. Donc, théoriquement, on devrait réussir à avoir des épidémies moins fortes, mais par contre, elles persistent, il y a des épidémies tous les ans, il y a eu encore des cas aux États-Unis cet été, avec une douzaine de cas et 4 morts.
Vous dites qu'elle est devenue de plus en plus pathogène, est-ce que ce mécanisme continue ?
Je dirais que plus pathogène que ça, ça devient très difficile.
D'accord. Ah oui, à ce point-là ?
Oui, dans la peste pulmonaire, la mortalité est de 100% en 3 jours.
Oui. On ne peut pas aller bien plus loin.
Voilà.
Vous en manipulez dans votre laboratoire à Pasteur,
Elisabeth
Carniel.
Bien
c'est votre quotidien justement, de vivre avec la peste. Oui. Vous prenez des précautions particulières, vous travaillez dans des laboratoires de haute sécurité.
Tout à fait, oui, absolument. Oui.
Et qu'est-ce que vous faites avec la peste ?
Eh bien, on essaye de comprendre un certain nombre de choses, comme par exemple pourquoi elle est aussi pathogène, on ne le sait toujours pas. Ce qu'elle fait à son hôte pour le tuer aussi efficacement, puisque c'est la bactérie la plus pathogène au monde, connue pour l'homme.
Ouais.
Et également, on essaye de développer un vaccin, d'améliorer les traitements, d'identifier les bactéries qui deviendraient résistantes aux antibiotiques.
Merci beaucoup pour vos explications, Elisabeth Carniel. Vous êtes chef de l'unité de recherche Yersinia à l'Institut Pasteur, donc à Paris.
Merci.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, déplacer des objets avec des ondes sonores, eh bien, c'est l'exploit réalisé par des chercheurs des universités de Bristol et du Sussex. À l'aide d'ondes ultrasoniques, les scientifiques sont parvenus à faire léviter, à déplacer des objets de moins d'un millimètre. Pour ce faire, ils ont utilisé 64 mini-haut-parleurs émettant des ondes ultrasonores et générant ainsi un champ de force grâce à la pression acoustique. Une vidéo de cette expérience est consultable sur la page Facebook de La Tête au Carré. Comment font les poissons pour s'en sortir face aux prédateurs lors d'une attaque ? Les espèces marines émettent fréquemment des composés chimiques pour avertir leurs congénères. Cependant, l'avantage évolutif de cette capacité et les bénéfices pour les individus n'avaient jusqu'alors pas été démontrés. Et bien, une étude menée sur les poissons demoiselles prouve que les produits émis par cette espèce à l'approche d'un prédateur attirent d'autres prédateurs secondaires et en concentrant ainsi un plus grand nombre d'attaquants, eh bien les poissons demoiselles sèment le trouble parmi les agresseurs et augmentent leurs chances de survie de 35 à 40%. Et puis aujourd'hui et demain, Le Point vous donne rendez-vous à Nice pour son événement Neuroplanète, une manifestation gratuite et ouverte à tous qui met à l'honneur le cerveau, qui suscite toujours autant de questions. Neuroscientifiques, psychiatres, mais également des philosophes, des artistes et des entrepreneurs seront présents pour explorer les fonctions de nos 100 milliards de neurones. N'hésitez pas à vous rendre au Centre universitaire méditerranéen de Nice. Rendez-vous en partenariat avec France Inter. Allez, le club des têtes au carré dans un instant.
nothing here is black and white. Then who's to say what's wrong or right for me? If we won't talk about it, 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 we won't talk about it.
Avec Bob Moses à l'instant sur France Inter.
Le club des têtes au carré. En partenariat avec TEDx Paris. Sur France Inter.
Le club des têtes au carré avec une invention lumineuse, des aventuriers du froid, des chercheurs de dinosaures à plumes, mes invités Stéphanie et Jérémy Jiquel. Donc, vous êtes avocat dans la vie, aventurier polaire lorsque vous ne plaidez pas, et vous venez nous parler de ce livre Expédition Across Antarctica, publié aux éditions Vilo et qui raconte donc votre périple à ski. En novembre dernier, c'était il y a un an tout juste, hein, vous apprêtiez à partir.
Exactement.
Stéphanie, hein, c'est ça.
Exactement, hein, le début de l'expédition, c'était le 14 novembre 2014, donc il y a tout juste un an.
Et là, ce 6 novembre, vous étiez au Chili, c'est ça ?
On était au Chili et on s'apprêtait à voler vers l'Antarctique. On attendait effectivement que les conditions météo soient favorables.
Marie-Laure Leloirne et Arnaud Salomon, vous êtes les auteurs chez Pelin Jeunesse de l'ouvrage sur les traces des dinosaures à plumes. Marie-Laure Leloirne, vous êtes directrice d'école et Arnaud Salomé, vous êtes professeur de sciences de la vie et de la Terre. Et vous êtes webmaster d'un site sur les dinosaures.
Voilà, ça fait une quinzaine d'années que ça a commencé. C'est vrai que ça fait une petite communauté de passionnés sur les dinosaures. Donc, c'est vrai qu'on a pu suivre l'actualité depuis de nombreuses années et qui, à l'heure actuelle, se concentre beaucoup sur les dinosaures à plumes. Il y a de très nombreuses découvertes.
Mais il y a tout le temps, en fait, des découvertes chez les dinos. Hein. Ça n'arrête pas.
En ce moment, ça n'arrête pas. Oui. Par exemple, en une année, on peut avoir plusieurs dizaines de nouvelles espèces. Donc, c'est assez difficile de tout suivre en même temps.
Et les Chinois bossent bien, d'ailleurs, dans ce domaine. Ils ont de très beaux sites, dinonews.net. Et puis, Sandra Ray, c'est avec vous que nous allons ouvrir ce club. Vous êtes fondatrice de Glowy, une start-up de biotechnologie environnementale qui développe un système de lumière biologique à base de bactéries. Nous sommes donc, comme chaque semaine, en partenariat avec TEDx Paris. Et vous étiez face au public, justement, en juin dernier.
Dans la vie, je fais de la lumière avec des bactéries. Ça peut paraître un peu surprenant, mais le plus surprenant, c'est que je suis designer. Et donc, je n'ai aucune formation scientifique. Et pourtant, toute ma vie tourne autour de la bonne volonté de micro-organismes à faire de la lumière. Avec mon équipe, nous développons Glowy, un système de bioéclairage sans consommation d'électricité ni émission de pollution lumineuse grâce aux propriétés naturelles de micro-organismes. Révolutionner l'éclairage urbain, c'est possible que ça n'aboutisse jamais. Mais en fait, si ça aboutit, le gain est tel qu'on n'usage même pas une seule seconde d'arrêter d'essayer. Donc moi, tout ce que je peux vous conseiller, c'est maintenant d'embarquer avec nous dans cette révolution de l'illumination. Merci.
Voilà, face au public, on veut bien embarquer avec vous, Sandra Ray, mais il va falloir évidemment nous en dire plus sur cette invention sur laquelle vous planchez en ce moment. Ben, je suis ravi parce qu'on se retrouve 2 ans plus tard, 2 ans et demi même à peu près, hein, on vous avait reçu. Vous aviez gagné un prix à l'époque et vous aviez été récompensé aussi pour cette idée.
L'idée était née de ce prix-là, en fait, qui était un concours étudiant. Et 2 ans et demi plus tard, on a décidé de développer l'entreprise et de rentrer en laboratoire.
C'est ça. Donc c'est formidable ce qui s'est passé quand même pour vous.
Oui,
vous avez pu avancer sur cette idée qui était l'objet issu de votre réflexion, mais plutôt sur le papier. Et maintenant, vous avez vraiment les mains dans le cambouis pour parvenir à réaliser ce projet. Alors vous n'êtes pas scientifique à la base.
Pas du tout.
Vous êtes designer, c'est ça ?
Oui. Ouais, j'ai fait une formation design industriel. Et d'ailleurs, l'idée est née d'une simple observation que tout le monde aurait pu faire et que des poissons sont capables de produire de la lumière sans électricité. Pourquoi est-ce qu'on ne serait pas capable de reproduire ça à l'échelle urbaine? Donc c'est cette observation qui a fait naître l'envie, en tout cas, de développer un système bioluminescent.
Et en fait, en s'intéressant à la bioluminescence, on se rend compte que c'est un phénomène qui est non seulement très très connu et qui était dans tous les laboratoires pour faire du marquage génétique, par exemple,
ouais,
mais aussi qu'il est issu de 90% des animaux marins, par exemple, que ce soit des méduses, des poissons, des calamars, du plancton. Et tous ces animaux-là produisent grâce à un gène, en fait, une réaction chimique de production de photons. Et à partir du moment où on a vu que cette réaction était capable de se faire à l'échelle d'une bactérie, et qu'on s'est dit que cette matière était microscopique, et ben on pouvait imaginer une matière première bioluminescente et l'appliquer ensuite dans différents usages dans la ville.
C'est ça. Et donc de passer à plus grande échelle, là, pour
exactement,
le coup.
Exactement. Surtout à passer de l'échelle macroscopique, puisqu'aujourd'hui elle est utilisée à l'échelle microscopique, et surtout de la faire durer dans le temps.
C'est ça.
Avec une intensité perceptible à l'œil humain, si possible. Donc c'est tout l'enjeu de notre recherche aujourd'hui.
C'est ça. Vous êtes combien, alors, à travailler depuis?
Aujourd'hui, on a une dizaine.
Bravo.
De tout profil différent. Il y a des docteurs en biologie synthétique, des ingénieurs en biotechnologie, en droit de l'environnement, en ingénieur environnemental, des profils business pour développer le côté d'entreprise, et puis toujours des designers.
Donc, cette idée est très sérieuse. Et alors, vous en êtes où au stade de l'élaboration de ce projet? Ça commence vraiment à fonctionner, là, sur grande échelle?
Ça fait un an qu'on est en laboratoire, donc ce qui est assez court comme cycle pour un projet de biotechnologie.
Ouais.
En un an, on a réussi à passer de quelques secondes de lumière à 72 heures de lumière en continu.
Ah, quand même
Ouais, avec une intensité qui est proche de celle de la bougie. Donc qui commence à être très intéressante. Donc là, on sort à la fin du mois, pas à la fin de l'année, enfin pendant la COP21, un premier produit qui est plutôt destiné au marché de l'événementiel du fait de sa durée un peu éphémère. Mais c'est vraiment une première étape de sortie de laboratoire qui est super importante pour nous.
Donc vous allez le présenter au Bourget pendant la COP21?
Non, pas au Bourget, dans différents endroits qu'on annoncera bientôt.
D'accord.
Mais c'est la première fois effectivement qu'on va le montrer au public, cette innovation. Et ensuite, on se laisse encore un an de recherche pour atteindre un mois de durée de vie à la fin de l'année prochaine.
Ah oui.
Pour attaquer des marchés comme l'éclairage de vitrine, par exemple.
Mais ça va très vite déjà, quand même, non?
Ça va très très vite. On espère que ça va garder cette vitesse-là.
Ouais.
Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui pousse l'innovation, c'est vraiment le fait qu'on aborde ce projet pas comme un projet de recherche classique, mais comme un produit, en fait, comme la conception d'un produit. C'est ce cahier des charges produits qui arrive à nous faire innover technologiquement,
c'est
et
ça.
Du coup, ça va vite.
Alors là, vous utilisez donc des organismes vivants, c'est ça, pour éclairer, pour faire de la lumière?
On utilise des bactéries, qui sont des bactéries très communes, complètement non pathogènes, qui sont des gentilles bactéries.
Oui, on parlait de la peste tout à l'heure,
voilà.
Mais là, c'est pas le cas.
On se rassure, ce sont des bactéries vraiment très communes et de catégorie 1, donc qui nécessitent aucune protection, même en laboratoire. Ces bactéries-là portent le gène de la bioluminescence et donc sont capables, dans des bonnes conditions, donc il leur faut, si on grossit un peu, de l'eau, du sucre et de l'oxygène, et tant qu'elles sont en vie et en bonnes conditions, elles produisent de la lumière.
Quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés justement pour parvenir à maintenir cette lumière pendant un temps long?
Alors il y en a plusieurs, il y en a même beaucoup. La première chose, c'est le fait que les bactéries ont besoin d'être vivantes pour produire de leur lumière. Or, si elles sont vivantes, elles continuent leur croissance, donc elles sont de plus en plus nombreuses, et donc dans un milieu clos, au bout d'un moment, on arrive à une saturation.
Ah.
Ça, c'est un premier problème.
Donc il faut les faire mourir un peu quand même.
Qu'elles meurent ou pas, en fait, elles prennent de la place. Donc, en fait, voilà, on a cette limite-là. Après, le deuxième problème, c'est effectivement de faire en sorte que, comme c'est une réaction chimique, il y ait tout le temps du substrat disponible pour les bactéries. Donc, nous, on travaille à maîtriser l'apport de ces substrats-là et à maîtriser aussi l'apport en nutriments des bactéries, puisque si les bactéries mangent tout d'un coup, après, elles cessent de fonctionner. Et donc c'est vraiment un travail de contrôle dans le temps de tout ce dont les bactéries ont besoin pour produire leur lumière.
Ouais. Donc évidemment, si vous parvenez à maintenir pendant un temps long ces bactéries pour éclairer, il y a des enjeux extraordinaires.
Il y a énormément de potentiel à partir du moment où on a une source d'éclairage autonome, et puis même plus qu'autonome, c'est autosuffisante. Puisqu'en fait, par exemple, un panneau solaire, ça va dépendre d'une charge et d'une décharge. C'est pas du tout le cas de ces organismes, puisque tant qu'ils sont en vie, ils sont complètement autosuffisants et produisent leur énergie en interne. Donc effectivement, il y a beaucoup de potentiel, à la fois dans des endroits où aujourd'hui on peut plus utiliser l'électricité, comme les vitrines des magasins, mais aussi dans des endroits où on peut remplacer l'usage de l'électricité dans le paysage urbain, comme sur de la signalétique, sur des monuments, sur des façades. Et après, il y a tout ce qui est les endroits où finalement il est trop compliqué ou trop coûteux d'installer des infrastructures électriques.
Ouais.
Puisque là, l'avantage, c'est qu'on peut imaginer cultiver sa propre lumière et avoir un système qui est complètement accessible sans infrastructure.
Extraordinaire, en tout cas, Jérémy Jiquel.
Oui, est-ce que les bactéries se reproduisent elles-mêmes ou elles sont produite en laboratoire? Comment est-ce que le...
C'est vraiment une culture de bactéries, donc il n'y a aucun prélèvement qui est fait à l'origine dans la nature. D'accord. On utilise des banques d'ADN d'un côté et de l'autre des bactéries. Ce qui se passe en laboratoire, c'est qu'en fait, on les cultive. Une fois qu'on a un échantillon satisfaisant, on le congèle. Et puis quand on a besoin, on continue cette culture. Et donc c'est un peu une culture permanente.
Évidemment, l'enjeu là aussi, c'est d'avoir une production d'émissions de gaz à effet de serre moindre.
Oui, exactement. On est en train de faire des études un peu poussées de cycle de vie. C'est très intéressant à plein de niveaux parce que à la fois en termes de production, contrairement à des systèmes électriques où on vient extraire de la matière première, où on vient la transformer, là on est vraiment sur une simple culture à infrastructure qui est très légère. Ensuite, en termes de produits, on est sur que des matériaux organiques, une résine organique qui encadre ces bactéries puis les bactéries elles-mêmes. Et ensuite, en termes d'installation, on va aussi réduire beaucoup de choses.
Ouais, donc c'est vraiment l'imitation de la nature dont vous êtes inspiré pour ce projet. Vous êtes les seuls dans le monde à travailler là-dessus? Il n'y a pas un peu de concurrence là?
Alors, il y a peu de, je dirais pas qu'on en est encore à un stade de concurrence. Il y a des projets de bioluminescence qui naissent, notamment aux États-Unis où, par exemple, ils développent des projets pour modifier des plantes et les rendre luminescentes afin de créer des systèmes d'éclairage. Il y a des projets artistiques. Il y a des projets à base de plancton qui sont plus de l'ordre pédagogique pour les enfants qui montrent comment fonctionne la bioluminescence. Maintenant, des visions marché, des visions produits, il y en a peu. Je pense qu'on ne sera pas les seuls à terre, mais j'espère bien. Il y a vraiment de la place pour plusieurs aussi. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enjeux. Déjà, il y a beaucoup de barrières à l'entrée. Rien qu'en termes législatifs, on est dans des vides juridiques. Ce genre de produit-là n'existe pas sur le marché aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup de questions qui se posent autour de ça. Et le fait de sortir de la démarche de laboratoire pour faire pour mener cette réflexion-là fait que ça nous amène plein d'avantages derrière.
Bon, on s'est rencontrés il y a 2 ans. Vous revenez dans 2 ans, parce que là, pour le coup, c'est on ça. Espère que ça va fonctionner à très grande échelle. C'est très prometteur, en tout cas, très intéressant. Sandra Ray, on peut revoir la vidéo de votre intervention à TEDx Paris en lien sur la page de la Tête au Carré, et puis les autres vidéos des scientifiques qui se sont produits sur scène pour expliquer, comme vous, leurs travaux au public. Et dans un instant, nous partons pour l'Antarctique.
Les eaux du barrage ont couvert d'un étang les murs du village et ses habitants. N'en menez pas large quand est venu le temps du départ. Les eaux du barrage ont couvert maintenant les rues du village, les forêts et les champs, devenus des rivages, des allées et des plages à présent. Où sont passées les places où jouaient les enfants? Avons-nous oublié qu'il n'y a pas si longtemps, loin de la vie sauvage, nous évitions les sables mouvants? Et c'est retenu, encore une fois, c'est retenu, encore une fois, nous tue.
Petit lac qui n'arrêtera pas de s'étendre jusqu'à ce que le village soit englouti par 160 mètres de fond. L'exode a commencé au cri des enfants insouciants qui voient dans cette aventure une source d'animation.
Au pied du barrage, nous vivons maintenant. C'est comme un présage, un fantôme inquiétant. Ce mur qui nous menace de noyer de sa rage le présent. Essaye d'oublier, de penser que la guerre, nous vivions isolés, loin de la vie entière, nous pouvons nous briser, mais rien ne réanime le temps. Et c'est retenu, encore une fois, c'est retenu, encore une fois, nous tue. C'est retenu, encore une fois.
la retenue. C'est pain noir à l'instant.
Salut.
La tech. Le club.
Open bar toute la nuit. Ambiance de folie. Toute sortie définitive.
Sur France Inter.
Ça laisse réfléchir.
Et après les bactéries pour fabriquer de la lumière et avant les dinosaures à plumes, deux aventuriers polaires également dans notre club, Stéphanie et Jérémy Jiquel. Vous êtes donc mari et femme à la ville. Il y a tout juste un an, vous vous apprêtiez à prendre vos skis pour une traversée hors du commun. Plus de 2000 km en Antarctique et donc vous publiez le récit de votre exploit. Vous êtes bien rentré dans un livre Expédition Across Antarctica qui paraît aux éditions Vilo et qui est préfacé par Nicolas Vanier. Comment a germé ce projet fou dans vos têtes, Stéphanie et Jérémy? Allez Jérémy, pour commencer.
Allez Jérémy, je pense que qu'on avait tous les deux un intérêt pour les défis sportifs, une notion d'accomplissement aussi pour les grands espaces, les régions polaires. Donc oui. C'est probablement cela qui nous a conduit au départ, le premier moteur. Et puis après, au fur et à mesure, puis aussi la volonté de construire un projet ensemble, en couple, parce qu'on a nos activités professionnelles séparément. Et puis, donc c'était le premier moteur. Et le second, au fur et à mesure que cette aventure s'est mise en œuvre, c'est la dimension humaine, les rencontres que l'on a faites avec des écoles, avec l'association Petit Prince, avec des milieux très différents de celui dans lequel on évolue et je pense que ça nous a extrêmement enrichi au niveau humain aussi.
Ouais. Ouais. Donc votre truc, vous, c'est les vacances au froid, hein. C'est pas les plages tropicales, c'est de préférence un petit coin bien frisqué, c'est ça Stéphanie?
Ouais, effectivement, c'est vrai qu'on est passionné par l'Arctique et l'Antarctique. Mmh. Alors on nous pose souvent la question de savoir pourquoi et c'est vrai que ces régions provoquent beaucoup d'émotions en fait quand on s'y rend. Alors ce sont des déserts, des déserts blancs où il fait très froid, c'est très très venté. Et même au début du XXe siècle, les premiers explorateurs qui ont mis le pied en Antarctique disaient au retour de leur voyage qu'ils ressentaient une très forte attraction. Et je pense qu'on a vraiment ressenti la même chose. Et en rentrant en France au mois de janvier dernier, on se posait la question de savoir est-ce qu'un jour on aurait à nouveau la chance d'y revenir, parce que c'est très très fort en réalité.
Je pensais que vous alliez vous demander si un jour vous n'alliez pas aller vous installer définitivement en Antarctique, mais non, c'est même pas possible d'ailleurs, à part quelques scientifiques. Il y a 50 personnes sur ce continent géant en gros qui travaillent.
Alors effectivement, il y a quelques bases scientifiques qui sont installées en Antarctique, principalement sur la côte, une base américaine également au niveau du pôle sud.
Concordia aussi.
Concordia, exactement, la base du Mont d'Urville pour ce qui concerne notamment la France. Et donc avec des scientifiques qui sont principalement présents pendant la saison estivale et en hiver très peu de scientifiques. Lorsque l'on est passé au pôle sud par exemple à Noël l'année dernière, on est arrivé juste pour le réveillon de Noël. Le hasard nous a conduit la veille de Noël. On a pu rencontrer quelques scientifiques sur la base américaine et à ce moment-là de l'année, on devait avoir 150 peut-être scientifiques, assez nombreux quand même.
C'est ça. Alors donc il y a un an, hein, quasiment jour pour jour, vous posiez le pied en Antarctique et vous décrivez vraiment cette émotion précisément qui vous a saisi quand vous étiez sur place pour ce début d'aventure, Stéphanie.
Oui, exactement. Le début de l'aventure, c'était le 14 novembre. Donc, il faut imaginer un avion qui nous dépose sur la côte du continent, près de la mer de Weddell. Et cet avion s'en va. Et là, on ressent beaucoup, beaucoup d'émotions. Déjà parce que c'est le début d'une grande aventure qu'on a préparée pendant des années. C'était vraiment pas évident d'être sur la ligne de départ de cette expédition. Et puis après, on sent cette responsabilité aussi de tous les partenaires, les écoles qui nous ont fait confiance et qui vont nous suivre pendant plus de 70 jours sur la glace. Et on ressent aussi l'immensité quand on survole l'Antarctique au moment de la dépose. Et tout ça est décrit dans le livre, effectivement, cette forte émotion.
Alors c'est bien parce que vous nous faites vraiment découvrir aussi ce continent de l'intérieur, avec aussi une image qu'on n'a pas forcément en tête, c'est les reliefs aussi de l'Antarctique, Jérémy, parce que c'est un continent avec des montagnes.
Exactement, c'était aussi un des objectifs de partage que l'on avait vis-à-vis de, par rapport à ce continent et à cette expérience, c'était de pouvoir rapporter des images, ce qui est un exercice assez compliqué en soi, que l'on a même tous les deux avec Stéphanie trouvé plus compliqué que les 2045 km en ski, parce qu'il faut pouvoir, quand il fait moins 40 ou moins 50, prendre une photo ou filmer un peu, c'est extrêmement compliqué. Mais on avait cette envie de partager effectivement sur ce continent qui est assez peu connu. Le relief, effectivement, est assez impressionnant. Mm-hmm. Le pôle sud, et on le sait peu, se situe à peu près à 3000 mètres d'altitude. Donc effectivement, il y a du dénivelé et c'était pour nous d'ailleurs une difficulté particulière. C'est en quelque sorte comme un océan de glace figé en altitude avec des vagues qui sont formées par le vent. Donc c'est très
ça a été une des plus grosses difficultés d'ailleurs. Le vent, et le froid évidemment, mais ce vent auquel vous étiez confronté quasiment en permanence,
Stéphanie. Oui, en fait c'est un vent de face quasiment tous les jours jusqu'au pôle sud. Donc effectivement c'est un vent qui nous ralentit. Hein. On était à 2,5, 3 km/h, 3,5 km/h les jours où on avançait le plus vite.
Voilà.
Mais effectivement, le vent...
Cadence escargot, alors.
Voilà. Ouais. Et puis, il fait aussi très très froid. On a eu du moins 50 pendant 10 jours avant le pôle sud, qui ont été évidemment les jours les plus compliqués à gérer. Après, on a des jours à moins 30 et là, on se trouve plutôt bien.
Ouais. Comment est-ce que vous avez préparé ce périple? Vous êtes de grands sportifs, hein, puisque vous pratiquez beaucoup de sport quand même en France, et vous avez eu un entraînement assez original avant de partir.
Oui, effectivement, on a eu un entraînement assez spécifique, disons. Alors, on n'est pas non plus des sportifs de haut niveau. Si les auditeurs pouvaient nous voir, ils verraient que Stéphanie n'a pas le gabarit de l'aventurier ou de l'aventurière.
Vous non plus d'ailleurs, vous êtes grand et maigre.
Mais et c'est cela qu'on trouve intéressant dans cette expérience, c'est de montrer que lorsque l'on a un rêve, un objectif, on peut toujours l'atteindre. Alors effectivement, c'est pas évident, on s'est donné les moyens de le faire avec des entraînements assez particuliers.
À Rungis par exemple, dans les frigos de Rungis.
Voilà, on a couru des longues distances sur des distances de marathon, 60, 100, 150 km en course à pied. Parfois, effectivement, comme vous le dites, dans des entrepôts frigorifiques pour se confronter aussi aux températures extrêmes. Parce que la difficulté, c'était l'effort physique et puis en même temps de pouvoir résister autant que possible au froid qui est très, très intense.
Vous avez souffert beaucoup aussi, Stéphanie, quand même. Hein, vous avez été assez malade sur place.
Alors, il y a eu quelques petites choses, oui. En début d'expédition, j'étais malade pendant une semaine. Un virus que j'ai ramené du Chili, alors qui n'est absolument pas grave chez nous, mais effectivement...
Et qui a résisté au froid.
Démarrer l'expédition avec une fièvre. Alors après, effectivement, il n'y a plus de virus, il n'y a plus de bactéries, il n'y a plus rien. Mais c'est vrai que démarrer l'expédition avec une fièvre, c'était quand même pas évident.
Et vous avez perdu beaucoup de poids, surtout.
J'ai perdu beaucoup de poids, oui.
Vous faisiez combien? 40 kilos
Je faisais 39 kilos à l'arrivée. En fait, on avait 4500 calories par jour. Il nous aurait fallu 6000 calories. Donc là, on a eu un petit problème, on va dire, d'approvisionnement de la nourriture en début d'expédition.
Qui aurait pu mettre un terme à votre projet.
Oui, exactement.
D'autant que vous traîniez beaucoup de poids derrière vous. Hein.
Oui, on traînait beaucoup de poids. C'est ce qui rendait aussi les choses pas forcément évidentes. Puisqu'on n'a pas de voile de traction. Il faut savoir qu'en Antarctique, les aventuriers utilisent généralement le vent. Donc, ils utilisent une voile. Et nous, on a vraiment fait le choix de le faire uniquement à ski. Donc, à ski de randonnée nordique sans voile de traction.
Ouais.
Donc, évidemment, on tracte la charge à la seule force des bras et des jambes.
Et il y avait cette urgence, Jérémy, d'arriver en temps et en heure, parce qu'il y avait le dernier avion que vous pouviez prendre. Sinon, qu'est-ce qui se passait?
Sinon, la bonne question. effectivement, on avait cette contrainte logistique de pouvoir franchir la ligne virtuelle d'arrivée sur la côte. Alors du coup, en moins de 74 jours, parce qu'on a été déposé sur la ligne de départ, sur le point de départ, avec une semaine de retard en raison des conditions météo. Et pour réduire le coût, le budget de l'expédition, on a souhaité pouvoir quitter l'Antarctique sur le dernier vol cargo d'une base qui s'appelle Union Glacier, qui était donc désinstallée. Tous les scientifiques, les membres quittaient cette base le 28 janvier. Et donc voilà, on a terminé l'expédition le 27 janvier dans la nuit, après une petite vingtaine d'heures de ski pour pouvoir terminer l'expédition. À un moment donné de l'expédition, 15 jours avant l'arrivée, s'est posé la question d'abandonner ou de ne pas abandonner. Et il nous restait un peu plus de 500 km à parcourir, soit un marathon ou un peu plus par jour, avec des conditions très difficiles parce que l'hiver commence à approcher. Et puis voilà, on avait tellement fait de kilomètres pour en arriver là, on avait tellement aussi de personnes qui nous soutenaient que l'on a décidé de tout donner. On dormait 4 heures par nuit et on skiait en permanence pour aller au bout.
Voilà. Et vous êtes bien arrivé donc en 74 jours. Vous avez évidemment des rendez-vous qui vous attendent pour parler de cette aventure. Il y a d'abord ce livre qui sort avec beaucoup de photos, le récit de votre aventure. Et puis vous serez à la COP21 également?
Oui,
Stéphanie.
Exactement. On sera au Bourget le 5 décembre pour donner une conférence sur l'Antarctique. C'est un continent qui est encore méconnu. Et notre objectif, c'est de pouvoir faire connaître ce continent pour sensibiliser le public à l'importance des pôles pour le climat. Et en fait, l'objectif, c'est de sensibiliser aussi les jeunes. On a travaillé avec pas mal d'écoles dans le cadre de cette expédition. Et les jeunes avec qui on a travaillé aujourd'hui connaissent l'Antarctique, connaissent les différences avec l'Arctique, savent quelles sont les problématiques.
Le continent d'un côté, la banquise arctique
exactement,
de l'autre.
Exactement. Et tout ça, je pense que c'est important, effectivement, de sensibiliser le public parce que parfois on est plus sensibilisé par des discours politiques et des images peuvent permettre de sensibiliser des personnes qui ont une autre forme de sensibilité.
On peut aller voir votre site également, hein, runners-tout-the-pole.com. Il est en lien, ça va être carré, ce sera beaucoup plus simple pour ceux qui souhaitent en savoir un petit peu plus. Rendez-vous donc le 5 décembre au Bourget pour la COP21. Et puis en attendant, on peut découvrir donc cette expédition Antarctica aux éditions Vilo, préfacée par Nicolas Vanier. Allez, des dinosaures à plumes, c'est dans un instant. Papa's Got a Brand New Bag avec James Brown dans notre club des Têtes au Carré. Marie-Laure Lelouarne, Arnaud Salomé, nos derniers invités sur les traces des dinosaures à plumes avec des illustrations d'Alain Beneteau. Ça sort aux éditions Belin Jeunesse. Et vous signez donc ce livre illustré qui est une véritable enquête jeune public pour justement lui montrer quoi ? Une autre réalité au fond des dinosaures, Marie-Laure Lelouarne ?
Tout à fait, c'était sortir de l'image qu'on pouvait avoir du dinosaure, donc soit énorme et féroce, soit énorme et placide, on a à peu près ce choix-là. Montrer qu'un dinosaure, bah, ça peut être aussi petit.
Petit comme un oiseau, au fond.
Petit comme un oiseau. Ouais. Et puis aussi comprendre, se pose la question, est-ce que ces dinosaures ont réellement disparu?
Ouais.
On sait que ça n'est pas le cas.
Avec les oiseaux, justement.
Avec les oiseaux, justement. Et amener le jeune public à observer le monde dans lequel il vit aussi avec ce regard nourri du passé.
Oui.
Et donc, de regarder les oiseaux comme des dinosaures, ça change aussi le point vue sur le monde présent.
Oui. Vous qui êtes directrice d'école, comment vous expliquez la fascination des enfants autour des dinosaures? C'est gigantisme, justement?
Non, pas forcément.
Vous avez autant de succès avec vos dinosaures
tout à
plumes,
fait.
C'est vrai?
Avec les dinosaures à plumes, on a autant de succès. Avec le vivant aussi, enfin, quelle que soit la forme, du minuscule au gigantesque. Hein, les enfants s'intéressent de toute façon aux animaux et aux vivants en général. Maintenant, la fascination des dinosaures, elle est inégalement partagée. Il y a des fans, ça les quitte pas, ça commence petit. Et puis,
il y en a un à votre gauche, Arnaud Salomé. Ouais. Puisque je le disais tout à l'heure, vous êtes à la tête d'un site dinonews.net. Vous êtes webmaster. Et vous avez participé aussi à des fouilles.
Oui, tout à fait, oui. Alors, c'était en 2001-2002, au sud de la France, à Esperanza. Il y a un musée des dinosaures à Esperanza, et juste à côté, il y a tout un terrain qui est propice aux fouilles.
Oui.
Les terrains sont datés, en fait, du Crétacé. Donc, en fait, c'est la dernière partie, on va dire avant la crise Crétacé-Tertiaire, celle qui, théoriquement, avait vu la disparition des dinosaures. Et du coup, on peut, en grattant la pierre, retrouver les ossements qui sont piégés dans la roche, et donc arriver à retrouver des squelettes entiers, ce qui a été le cas au moment où je suis arrivé en 2002. Il y a un squelette d'une dizaine de mètres de long qui a été sorti. Oui. Alors là, c'est le sauropode, donc le gros espèce de gros éléphant avec un
herbivore. Herbivore. Sympathique, hein, lui, il est bien le sauropode. Hein.
Voilà,
il veut de mal à personne, au fond.
Le dinosaure placide.
C'est
voilà.
Ça. Oui, oui.
Et bon, il y a quelques espèces aussi qui sont un peu plus rares, mais qui sont typiques, un peu comme le raptor, comme le vélociraptor de Jurassic Park.
Ouais.
Mais là, ce sont des os qui sont un peu éparpillés.
Mm-hmm.
Et j'ai également fait aussi un petit pèlerinage en paléontologique qu'on a appelé les dinotours entre amis, qu'on avait organisé avec le site internet.
Ouais.
On s'est baladé en France, on s'est baladé aussi en Belgique, en Allemagne. On a été voir les musées, on a été voir les chantiers de fouilles aussi qu'on peut. Et c'est vrai que c'est passionnant finalement. Ça
ouvre. Les dinosaures ont largement fréquenté notre continent.
Tout
et
à fait.
Les dinosaures à plumes vous ont intéressé. Extrait d'un documentaire.
Liao Ning a révélé au monde que les dinosaures avaient à cette époque amorcé une spectaculaire métamorphose. Ce fossile, découvert en 1996, montre bien l'ampleur de ces évolutions. C'est celui d'un dinosaure nommé Cynosauropteryx. Il mesurait environ un mètre de long. La surface de son corps semble entièrement recouverte d'un voile sombre. On peut apercevoir de nombreuses petites lignes qui ressemblent à des griffures. Ces lignes mesurent environ 1 cm de long et s'étendent du cou à l'ensemble du torse. Ce sont des traces de protoplumes, autrement dit, d'un plumage primitif.
Voilà, et ça c'était en 1996, Marie-Laure Leloir. Une découverte très importante. Hein.
Oui, sur les sites en Chine,
qui a
vraiment ouvert de nouvelles perspectives en amenant de nombreux spécimens très différents et très bien conservés. Donc
alors,
ça,
c'était pas le premier qui a été découvert à plume, hein. Je crois que c'est 1861
voilà,
pour le tout premier.
Voilà. Mm-hmm. Mais là, et ça a amené en fait de l'eau au moulin de tous les paléontologues qui s'interrogeaient sur justement le lien entre dinosaures, théropodes et oiseaux.
Ouais.
Est-ce qu'on manquait encore de...
Il y avait le chaînon manquant justement là, sur les informations.
Alors, sur les informations, on va dire.
Ouais. Arnaud Salomé, justement, ces plumes, on ne les découvre pas quand on découvre un fossile. Qu'est-ce qui reste alors? C'est juste leurs traces.
Très souvent, on ne les retrouve pas. Et c'est le cas effectivement dans la plupart des gisements paléontologiques du monde. Et c'est aussi pour ça que ça a été longtemps avant de pouvoir étudier les dinosaures à plumes. Et finalement, depuis justement 96, la Chine s'est fait la spécialité mondiale de trouver les fossiles de dinosaures dont on trouve intactes les plumes fossilisées ou en empreinte dans la pierre.
Ouais.
Et en fait, ce sont des milliers et des milliers d'espèces et de spécimens différents qui sont en Chine. Et À tel point d'ailleurs que même les Chinois, enfin les paysans chinois se sont fait une spécialité dans une certaine région, ils sont capables assez facilement dans leur terrain de savoir où se situent les propres fossiles.
Ouais.
Et c'est vrai qu'en plus il y a un trafic qui s'est développé dessus. Mais du coup, c'est un matériel complètement nouveau, complètement qu'on n'a pas en Europe. Nous, effectivement, on a Archaeopteryx, mais c'est vraiment, ouais, on a une dizaine de spécimens d'Archaeopteryx, on n'a pas plus. Et en Chine, voilà, on a découvert, mais dans tous les groupes d'ailleurs de dinosaures, c'est pas uniquement dans les petits dinosaures qui vont donner effectivement les oiseaux ou dans les oiseaux eux-mêmes. C'est vraiment dans de très nombreux groupes de dinosaures, ouais, qu'on a découvert des spécimens avec des plumes avérées.
Archaeopteryx, donc, est-ce qu'ils volaient ou pas? Parce qu'ils avaient des plumes, mais tous ne volaient pas. Hein.
Tout à fait. Ce qui permet d'interroger sur le rôle des plumes.
C'est ça.
Parce qu'on les associe systématiquement au vol. Et non, les plumes ne servent pas uniquement...
Archaeopteryx, lui, en l'occurrence, il volait.
Il volait. Ouais. Enfin, on pense qu'il avait la capacité à voler. Hein, la forme des plumes, leur rigidité.
Mm-hmm.
Et puis, bah, y a des tests, hein, qui sont faits sur sa vélocité et, ouais, et sa capacité.
Alors, à du coup, c'est un oiseau, un dinosaure. Qu'est-ce qu'on peut en dire?
Alors,
la question est très bonne parce qu'effectivement, en fait, il y a tellement eu de découvertes et tellement de spécimens qui montrent tellement d'étapes différentes en quelque sorte, que finalement, on ne sait plus vraiment où poser la frontière entre les dinosaures et les oiseaux.
Ouais.
Autrefois, 20e siècle, on va dire, la question se posait, voilà, de l'enracinement des oiseaux. On ne savait pas exactement où est-ce que c'était.
Mm-hmm.
Bon, c'était quand même majoritaire le fait de penser que c'était au sein des dinosaures que se sont développés les oiseaux. Mais finalement, à l'heure actuelle, on ne sait même plus où mettre la frontière tellement il y a de fossiles qui ressemblent à des, voilà, ce qu'on peut, mm-hmm, voir aujourd'hui, alors qu'ils ont 150 millions d'années, donc quelque chose qui est vraiment extrêmement éloigné. Quoi.
Donc pour l'instant, on s'en tient à la plume de vol, hein, cette fameuse plume asymétrique, celle qu'on trouve là sur le sol assez souvent, qui elle serait la marque de la plume permettant le vol. Mais ce qu'il faut saisir et réussir à garder en tête, c'est que les oiseaux font partie des dinosaures, ce sont des dinosaures particuliers,
oui,
au même titre que les sauropodes ou...
Est-ce que tous les oiseaux sont vraiment des dinosaures, ah, ou pas,
oui,
tous,
oui,
nos oiseaux,
oui,
actuels,
oui, oui, sans, ouais, aucune exception, oui.
Donc on peut les regarder autrement.
Ah, on les regardera toujours autrement, à, ouais, partir de maintenant, c'est sûr. Ouais.
Alors il y a le tout premier, je crois, qui a été découvert en 2008, Epidexipteryx, j'espère que je le prononce,
oui, c'est
bien.
Ça.
Hein, ça, c'est le plus ancien dinosaure à plumes?
Alors c'est l'un des plus anciens. En fait, il y a 2, 3, 4 espèces qui seront datées à peu près de cet âge-là.
Ouais.
Mais la datation est assez imprécise. C'est-à-dire que c'est une échelle de 10 à 15 millions d'années. Donc, oui, bon, on a choisi celui-là, effectivement.
À la louche, on va dire.
Voilà,
hein,
à la louche.
À quelques 10 millions d'années près.
C'est quand même assez compliqué de dater un terrain, il, ouais, faut bien le dire. Mais sachant qu'il a quand même des plumes qui sont assez différenciées. Donc, ça veut dire qu'on sait que c'est sans doute pas le premier. En tout cas, c'est le premier qu'on ait actuellement, en tout cas le plus vieux.
Mm-hmm.
Mais il y en aura certainement d'autres qui seront découverts encore plus vieux dans les découvertes, ouais, futures.
Alors, lui, il volait pas, par exemple.
Non.
Il avait des plumes, mais qui ne savait pas voler.
Qui ressemblait plutôt à un duvet, hein, et des plumes très longues au niveau de la queue, qui étaient plutôt des plumes de parade.
Mm-hmm.
Donc, les plumes, dans leurs premières attributions, c'était plutôt s'isoler du froid, s'isoler de l'humidité.
Ouais.
Et la parade, la communication, ce qu'on peut retrouver dans les comportements des oiseaux à l'heure actuelle.
Ouais. Et lui, il mesurait 20 cm.
Oui,
hein,
c'est une toute petite bestiole.
Petit dinosaure.
Oui, oui.
Mais qui était mignon parce qu'il avait son duvet, c'est ça,
ah,
en fait. C'était un corps de duvet.
Oui. Voilà. Ouais.
Une espèce de poussin, finalement.
Ça, mais toute, ouais, la vie, en fait. Hein, il avait ça,
oui,
sur,
tout à fait,
sur,
voilà,
le dos. Hein. Alors, est-ce qu'on en sait plus sur la couleur des plumes, justement? Parce, ah, qu'on ne les retrouve pas entières. Donc, comment on peut extrapoler là-dessus?
Alors, c'est une découverte, là encore, qui est assez récente. Des chercheurs se sont intéressés à la structure au microscope qui pouvait observer des restes fossilisés de plumes. Et ils ont observé au microscope électronique des espèces de petites cellules, des petits corps qu'ils ont, et en fait qui correspondent finalement à des...
À des pigments.
À des pigments, voilà, ouais, que l'on trouve également sur les oiseaux actuels, enfin sur les plumes des oiseaux actuels. Et donc, en faisant l'analogie avec les oiseaux actuels, on peut retrouver par la forme de ces pigments, bah, finalement, que, ouais, voilà, par exemple, en curniste, on sait qu'il a une houppette qui était rouge, qu'il avait sur les ailes, finalement, des rayures noires et blanches. Donc, c'est vrai que c'est un domaine tout à fait passionnant, parce qu'on n'imaginait pas du tout pouvoir savoir exactement quelle est leur couleur.
Il, justement avec Alain Beneteau, qui s'est fait une spécialité, hein, dans l'illustration.
Pour illustrer, hein, très très belles
illustrations.
Ouais.
Et qui, parfois, extrapolait pour dessiner des dinosaures à plumes,
oui, mm-hmm,
donc en s'appuyant sur ses observations de la nature présente. Mm. Et en fait, entre autres pour Archéoptérix, eh bien, les couleurs qu'il avait, lui, envisagées se sont avérées...
L'artiste avait raison.
Oui, tout à fait. L'artiste avait raison.
Voilà, c'est un très chouette livre pour les plus jeunes, à partir de 8 ans, hein, chez Belin Jeunesse, avec plein de choses à ouvrir, à déplier. Et c'est magnifique pour en savoir un peu plus sur ces dinosaures à plumes, sur leurs traces en tout cas. Merci beaucoup à tous les deux, merci à tous d'être venus aujourd'hui dans le Club des Têtes au Carré. Ainsi s'achève donc notre club. Merci à Ludovic Asselot qui était aujourd'hui à la technique. N'oubliez pas le best-of de la Tête au Carré, concocté pour vous par Stéphanie Texier. Ce sont les meilleurs moments de la semaine, condensés en moins de 10 minutes et que vous pouvez télécharger dès maintenant pour réécouter la semaine de l'émission franceinter.fr.